Oui, simplement pour les missionnaires, on a fait une offrande missionnaire. Vous savez que nous supportons des missionnaires comme Anaïs Goutier qui travaille dans un CFC, donc les étudiants pour Christ dans les campus universitaires de Belgique. Nous soutenons Walter Gonsalves en Bosnie, il fait moins 25 là-bas. Hein, tu parlais de. On a parlé du mauvais temps, là, du froid, etc. Moins 25 chez Walter, c'est pas évident. Hein. Donc prions bien pour Walter et tous les jeunes qui sont là-bas. C'est vraiment des conditions hivernales assez costaudes. Excuse-moi. Voilà, donc c'est important. C'était la semaine universelle de prière. Oui, ceux qu'on supporte aussi, j'oubliais Clémentine, bien sûr. Clémentine Denisa aussi, qui est en Égypte pour l'instant. Clémentine qui est à Oslo. Et nous soutenons des œuvres aussi. Hein. Bethel, l'œuvre Bethel, le village Imura, au Burundi. Bethel, c'est à Charleroi, c'est l'œuvre parmi les toxicomanes. Nous soutenons aussi deux enfants, nous parrainons deux enfants avec le sel à Madagascar. Hein, ils reçoivent à manger, ils ont une scolarité normale, etc. Tout ça, c'est important. Continuons. Hein. Et nous voulons vraiment soutenir des ministères aussi. Moi, j'ai vraiment à cœur de soutenir des ministères en Afrique, notamment. Hein. Je crois que c'est important. Je pense beaucoup au pays de la République centrafricaine, où politiquement, c'est vraiment très difficile au niveau des religions, etc. C'est compliqué. Hein, c'est très compliqué. Les fanatiques musulmans qui n'ont rien à voir avec les modérés, je vous rassure. Il y a des modérés aussi qui sont très bien là-bas. Hein, mais par contre, il y a des fondamentalistes qui font beaucoup de dégâts, beaucoup de mal. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais bien de vous introduire sur un sujet important. Vous savez que c'est l'année de la réforme 1517-2017. Nous avons eu la semaine de prière universelle et nous avons parlé des cinq solas, les cinq grands points de la réforme. Et quels sont les cinq solas qui nous. Voilà, qui vraiment c'est l'ADN du protestantisme, hein, bien sûr en réaction avec le catholicisme en 1517, hein, c'est évident. On a mis l'accent sur des choses qui avaient été oubliées. Et qu'est-ce que l'Évangile dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Les cinq solas nous rappellent des choses fondamentales par rapport à l'époque où ils vivaient, bien sûr, mais qui sont toujours interpellants aujourd'hui, qui sont toujours des fondamentaux, je vais dire. Sola, ça veut dire seul, hein, en latin. Sola scriptura, seule l'écriture. Le fondement de l'autorité pour le chrétien, c'est l'écriture, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le pape et les conciles qui se sont trompés maintes fois, disait Luther, mais la parole de Dieu. Alors, je rassure tout de suite, il y a aussi des catholiques sincères qui mettent leur confiance dans la parole de Dieu aujourd'hui, hein. Le premier sola, c'est sola scriptura. Le deuxième sola, c'est sola gratia. Seule la grâce nous sauve. Nous n'avons pas de mérite. Les mérites humains n'existent pas pour notre salut. Parce que nous ne pouvons pas être sauvés sur la base de nos mérites, des mérites des choses que nous pouvons faire. C'est impossible. Ça, nous allons développer aussi tout à l'heure. Sola gratia, c'est la grâce qui nous sauve. Dieu vient vers nous et il veut nous sauver. C'est extraordinaire. C'est l'amour de Dieu. Nous ne méritons rien sinon l'enfer à cause des péchés. On ne peut pas dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Ça, nous pourrons le voir hein, aussi. Nous sommes tous de la race du péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort éternelle. Mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Mais l'action première, c'est Dieu. Et ça, nous le verrons. Donc, sola gratia, seule la grâce, sola fide. Sola fide, c'est seule la foi. La réponse à donner à la grâce, c'est Dieu qui vient pour nous sauver, qui initie le salut. Il veut nous sauver, il veut que nous lui appartenions et il demande une réponse. Et la réponse, elle se trouve être la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est même Dieu qui nous donne la foi, hein, qui nous permet d'accéder à la foi et de pouvoir recevoir la grâce. Extraordinaire. Seul la foi. Seule la foi. Donc il faut venir à la foi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle par la foi. C'est en lui, en croyant en Jésus, que nous recevons la vie éternelle. Alors, les deux autres solas qui se joignent aux trois solas. Les trois premiers solas, c'est Luther qui les a remis bien clairement en avant, quoique Pierre Valdo avait déjà sondé les écritures pour trouver ces choses. Jean Hus connaissait aussi, donc un siècle plus tôt. Pierre Valdo, c'est le 12e siècle, au temps de François d'Assise, qui lui avait fait une réforme par l'intérieur. Mais Pierre Valdo avait déjà découvert des choses. Donc, il y a eu des pré-réformateurs. Il ne faut pas dire que Luther a tout fait, hein, au niveau du protestantisme. Il y a les pré-réformateurs, il y a les réformateurs, il n'y a pas que Luther, il y en a beaucoup d'autres. Mais ça a été quand même un réformateur essentiel de la réforme. Autant aussi avec Jean Calvin, mais il n'y a pas que. Il y a Zwingli, bien sûr, il y a Guillaume Farel, il y a Bucer, Martin Bucer à Strasbourg. Et il y en a beaucoup d'autres, John Knox en Écosse, et il y en a même, un Belge aussi, il faut que je revienne sur son nom, Guy Debray, qui était né à Mons et qui est mort à Valenciennes, qui était brûlé sur un bûcher, donc à Valenciennes. Donc voilà, et beaucoup d'autres. Hein. Ce n'est pas encore John Wycliffe, Tyndale, et on pourra ajouter Théodore de Bèze et les autres. Bon, alors, la question de base, c'est sommes-nous sauvés par la foi seule ou par la foi et les œuvres? Et je vais vous donner des versets qui sont contrastants et qui peuvent apparemment mettre en doute Paul et Jacques semblent avoir des paroles divergentes. Donc c'est intéressant de toute façon de voir cela. Et on va tout de suite lire Jacques pour voir un peu ce qu'il raconte Jacques. Et c'est très intéressant, c'est la parole de Dieu. Jacques chapitre 2 versets 14 à 26. Donc, tout à l'heure, peut-être que tu seras bien de mettre la clé USB, ce serait pas mal. Jacques 2, versets 14 à 26. Sans œuvre, la foi est morte. À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix ». Mettez-vous au chaud et bon appétit, sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Mais quelqu'un dira, tu as de la foi, moi aussi j'ai des œuvres, prouve-moi ta foi sans les œuvres, et moi je tirerai de mes œuvres la preuve de ma foi. Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Les démons le croient, eux aussi, et ils frissonnent. Veux-tu te rendre compte, pauvre être, que la foi est inopérante sans les œuvres? Abraham, notre père, n'est-ce pas aux œuvres qu'il dut sa justice pour avoir mis son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres, que les œuvres ont complété la foi, et que s'est réalisé le texte qui dit « Abraham eut foi en Dieu ». Et cela lui fut compté comme justice, et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous constatez que l'on doit sa justice aux œuvres et pas seulement à la foi. Tel fut le cas aussi pour Rahab la prostituée. N'est-ce pas aux œuvres qu'elle dut sa justice pour avoir accueilli les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? En effet, de même que sans souffle, le corps est mort, de même aussi sans œuvre, la foi est morte. Voilà, alors, c'est une question, hein. Est-ce que nous sommes sauvés par la foi? Ou alors, est-ce que nous sommes sauvés par la foi et les œuvres? Question fondamentale, très importante, l'orientation de notre vie, la manière dont nous allons vivre notre vie chrétienne en dépend. Donc c'est très important de savoir répondre à ça. C'est une question qui était à l'origine de la réforme. Et à l'origine de la rupture entre les églises protestantes et l'église catholique. Hein, il faut se rappeler que c'est important. Qu'est-ce qu'on faisait à ce temps-là? Dans l'église catholique, qu'est-ce qu'on disait? On a toujours dit faut aller à l'église tous les dimanches. C'est obligatoire. C'est un péché de ne pas y aller. Mais il n'y a pas que cela. Il y a la confession. Il y a les pèlerinages. Il y a les reliques. Il y a les indulgences. Les reliques, qu'est-ce que c'est? C'est les ossements des saints. Donc on se prosterne. On se prosterne devant les reliques. Encore aujourd'hui, il y a des pèlerinages, etc. Les indulgences, qu'est-ce que c'est? Les indulgences, pour rappel, les saints de l'Église ont fait tellement de bien qu'ils en ont fait trop pour être sauvés. En fait, le salut est méritoire dans l'Église catholique. Donc, ils ont tellement fait de bien qu'ils en ont fait trop. Alors, c'est pas perdu. Le pape, il a un trésor, dans lequel il place toutes les actions de trop que les saints ont fait. Marie et les autres saints, dans toute l'histoire. Et donc, comme le pape Léon X avait donc un désir, c'est de construire la basilique, reconstruire la basilique Saint-Pierre à Rome, faire un édifice extraordinaire au niveau architectural, le plus grand édifice chrétien, d'ailleurs, c'est vraiment immense. En utilisant les plus grands artistes comme Michel-Ange, etc., il fallait évidemment beaucoup d'argent. Et il n'y avait pas assez d'argent pour faire ça. Les caisses étaient vides. Donc, une solution, c'était de demander aux gens de payer des lettres d'indulgence. Et ces lettres d'indulgence, en fait, c'est un peu comme si le pape allait rechercher une bonne action d'un saint pour l'attribuer à quelqu'un qui paye pour recevoir la lettre d'indulgence. Et de cette manière-là, l'argent pouvait retourner à Rome pour la construction de la basilique Saint-Pierre. C'est pas mal comme mécanisme, mais sauf que la parole de Dieu dit que le salut est payant ou gratuit. Gratuit, mais évidemment, les gens n'avaient pas la Bible pour contrôler, puisqu'il était interdit de posséder une Bible. Interdiction. Et donc, ceux qui avaient cela, c'était des profs de théologie, bien sûr, dans les universités. Mais, mis à part cela, très peu de gens avaient accès à la parole de Dieu. Et Luther a été mis en contact avec l'Évangile parce que, il était devenu moine, chez les Augustins. Et son père spirituel l'a conduit à faire des études théologiques à l'université d'Erfurt. Et c'est là qu'il va découvrir le Nouveau Testament, vraiment plonger dedans, et finalement l'enseigner. Il va enseigner le Nouveau Testament à l'université, et il va découvrir. Il va découvrir, parce que lui n'était pas sûr par rapport à sa vie personnelle, il n'était pas au clair par rapport à la vie éternelle. Il n'était pas sûr d'avoir fait assez de bien pour être sauvé. Il était tourmenté, en fait. En tant que moine, c'était vraiment, il faisait mieux que tout le monde, il jeûnait plus que les autres, il travaillait plus que les autres, mais il n'avait jamais de certitude quant à la validité de tout ce qu'il faisait. Est-ce qu'il en avait fait assez? Et il n'avait pas confiance, il n'était pas sûr. Et il a découvert un verset extraordinaire, tout simplement dans Romains chapitre 1er, on peut aller voir si vous voulez bien. Ça, c'est un verset biblique qu'il a complètement transformé dans Romains, l'épître aux Romains. Verset 16 et 17. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile, dit Paul. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif premièrement, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Et là, c'est une découverte, wow, ça va le changer, ça va le transformer, ça va vraiment éclairer non seulement son intelligence, parce que c'est un homme qui réfléchit beaucoup, c'est un intellectuel d'haute voltige, on va dire, c'est vraiment un homme de réflexion qui était capable de contrer les plus grands théologiens catholiques, etc., de l'époque, et il avait une connaissance, mais là, il découvre... Le Saint-Esprit lui révèle que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif premièrement, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Et donc, le salut est attribué à celui qui croit. C'est par la foi qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur, et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Le juste vivra par la foi. La justice de Dieu est obtenue par la foi. Dieu nous justifie gratuitement. Nous sommes rendus justes devant Dieu par la foi d'une manière gratuite. Donc c'est à la fois la grâce de Dieu, ça c'est ce que nous allons lire aussi, si vous voulez bien aller dans Éphésiens, on va aller dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la grâce c'est Dieu qui procède, Dieu nous choisit, Dieu nous aime. En fait, nous étions captifs de la loi du péché. Depuis Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils ont commis le péché, vous vous rappelez. Et toute la race humaine, il n'y a qu'une race, hein, la race humaine est porteuse du péché. Et donc, il y a, c'est comme si l'esprit de l'être humain est voilé. Hein, et il lui faut une révélation. Mais Dieu... manifeste son amour, Dieu veut sauver, Dieu s'approche de l'homme, Dieu en Jésus-Christ a tout accompli pour notre salut. D'ailleurs, une parole de Jésus sur la croix, c'est tout est accompli, tout est accompli. Donc c'est par la grâce, Jésus a accompli le salut à la croix, entièrement. Il est mort pour nos péchés, il est mort avec nos péchés, il est mort avec notre vieille nature qui nous fait pécher, d'accord ? Il est mort en prenant notre condamnation sur lui, pour nous en délivrer, parce que le péché ne pouvait pas le retenir dans la mort, étant donné que lui n'avait pas commis un seul péché. Donc Dieu l'a délivré de la mort, il est ressuscité. Et en mettant notre foi en lui, nous sommes délivrés de cela. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est un cadeau immérité. Nous n'avons rien fait pour être sauvés, nous n'avons rien à faire d'ailleurs pour être sauvés, sinon croire. Et donc, ça c'est je vais dire, la foi vient après la grâce. La grâce nous est donnée en premier. C'est pas parce que je crois que Dieu me fait grâce après, hein. C'est pas une œuvre la foi. Donc Dieu me fait grâce, Dieu me choisit, Dieu me sauve et j'y crois. Ça c'est très important. Sinon, si la foi vient en premier, alors la foi devient comme une œuvre. Et c'est pas ça. C'est d'abord la grâce et puis je le reçois par la foi. Très important. Et cela ne vient pas de vous, ça ne viendra jamais de l'être humain. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a pas de mérite possible. Si vous avez vu le film Luther, et je vous convie de le voir, à ce temps-là, eh bien, il marchait sur les genoux, hein, après, avec la lettre d'indulgence. Et on les voit marcher comme ça, prier en même temps. Et on voit encore cela dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains. Il y a quelque chose à mériter. Et les religions, en général, il faut mériter quelque chose. Hein, si Dieu nous sauve, c'est parce qu'il faut absolument le mériter. Et non, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Cela ne vient pas de vous et le salut ne viendra jamais de vous. Il vient de Dieu. Il vient de Dieu. C'est le don de Dieu. Le salut est donné par Dieu. Il n'est pas méritable. Ce n'est point par les œuvres. Pourquoi ? Ben, pour que personne ne se glorifie. Dieu veut être le seul à être glorifié. Je disais qu'il y avait trois solas, les trois premiers, et puis encore deux autres. Et Jésus seul, c'est par Jésus que nous obtenons le salut. Et encore le cinquième, sola gloria Deo, seule la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. C'est uniquement pour la gloire de Dieu. Les hommes ne peuvent pas se glorifier au travers du salut. Impossible. Impossible. On aura besoin de l'éternité pour remercier Dieu. Sinon, si c'est moi, grâce à ce que je suis, à ce que j'ai fait, je peux me glorifier. Hein. Quelque part, je vais avoir ma statue quelque part. Non, je ne sais pas. Non. Je ne me sauve pas par moi-même. Nous ne sauvons pas par nos efforts, ou nos capacités, ou notre bonté, ou notre générosité, notre ceci, notre cela, rien du tout. Non. Non, c'est Christ et uniquement lui qui nous sauve. Il n'y a aucun mérite en quoi que ce soit. Voilà, je crois que c'est vraiment important. Et ce sera important aussi de voir le verset qui suit, qui est fantastique évidemment. On va le reprendre, je pense, parce que dans ce passage, il y a tout. En fait, Paul dit aussi ce que Jacques nous dit. On va le voir, c'est des fois très étonnant de... en fait, Jacques et Paul se complètent et de toute façon parlent de la même langue. Hein. On va voir ça dans Éphésiens 2:10, hein, tout simplement. Voilà. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, voilà, nous avons été faits pour accomplir des œuvres bonnes. Donc, Paul ne dit pas qu'il ne faut pas accomplir d'œuvres bonnes. L'important dans le salut, c'est simplement de croire et rien d'autre. En fait, dans le salut, et c'est ça qu'il faut absolument que vous compreniez, nous sommes passifs. C'est Dieu qui est actif. C'est Dieu qui nous sauve. Nous sommes passifs. Il n'y a aucun mérite. Ce n'est pas nous qui agissons dans le salut. C'est Dieu qui agit. Mais parce que nous sommes sauvés, parce que nous lui appartenons, parce qu'il est venu habiter en nous, parce qu'il transforme notre vie, parce qu'il nous justifie, il nous rend juste, la justice nous est donnée. Je vais mettre en application ma vie en Christ. Je vais être semblable à Christ. C'est une conséquence du salut, c'est d'être comme Jésus, de porter les fruits de l'arbre que nous sommes. Si nous sommes un bon arbre, parce que Dieu nous a sauvés, Dieu nous a donné une nouvelle nature, qu'est-ce que nous allons produire comme fruit de cette nouvelle nature? Des œuvres dont nous n'aurons plus à rougir. Parce que vous savez qu'il y a deux natures. La nature adamique, la mauvaise, nous avons hérité d'Adam. Et quand je mets ma foi en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient vivre en moi par son esprit et il me donne aussi une nouvelle nature. Et la nouvelle nature, elle va produire des fruits. Un bon arbre porte des bons fruits. Un mauvais arbre porte des mauvais fruits. Ça dépend de la nature de l'arbre. Qu'est-ce que c'est pour un arbre? Hein? Et si nous sommes régénérés par le Christ, si Dieu nous a rendu la vie, si l'Esprit de Jésus habite pleinement en nous parce que nous avons foi en lui, parce qu'il nous a fait grâce et nous avons accueilli la grâce, eh bien il va y avoir des fruits qui vont s'en suivre. Mais ce n'est pas les fruits, ce ne sont pas les œuvres, pardon, qui vont faire que nous sommes justifiés et sauvés. Hein, parce qu'il y a des versets qui parlent que Dieu nous jugera selon nos œuvres. Alors, j'aimerais bien te dire ceci, parce qu'il peut y avoir des confusions, hein, il peut y avoir des confusions, je l'admets, si on ne comprend pas bien. La première chose, au départ, pour que le salut soit opérant, la grâce vient à nous. Et nous réagissons par rapport à la grâce par la foi. Hein, Dieu prépare nos cœurs et notre cœur s'ouvre. Et nous sommes sauvés. L'Esprit vient en nous, habiter en nous. Nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est Dieu qui agit dans nos cœurs. Et puis, qu'est-ce que je vais faire de tout le temps qui va me rester sur la terre? Et là, il y a un temps. Et le temps n'est pas le même pour celui qui a été crucifié à côté de Jésus. Il allait mourir dans quelques heures, comme Jésus d'ailleurs. Et Jésus lui a dit, il n'a pas eu le temps de faire des œuvres. Il a simplement cru que Jésus était le Fils de Dieu, était le Messie. Et Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. Et donc, il n'a pas eu le temps de faire le bien. Mais quand nous avons le temps de faire le bien, l'espace-temps est très important. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Abraham a cru, hein, on a vu, Abraham eut foi en Dieu, cela lui fut compté comme justice, il reçut le nom d'ami de Dieu, etc. Il va offrir son fils. Donc il va y avoir une œuvre. Mais Dieu l'a d'abord choisi. Il a eu en foi en Dieu. Secondement, puis il y a aussi les œuvres qui accompagnent notre foi. En fait, les œuvres, elles accompagnent notre foi. Elles sont la conséquence de notre foi. Elles naissent de notre foi. Donc, ce n'est pas la foi et les œuvres qui nous sauvent, c'est uniquement la foi. Les œuvres, elles sont importantes aussi, parce que Dieu va nous récompenser d'après nos œuvres. Certaines œuvres seront brûlées comme de la paille. D'autres seront comme des diamants, comme de l'or. Et là, il va y avoir des récompenses. Pour certaines œuvres qui sont mues par l'amour, mues par l'esprit, comme Dieu le veut, elles sont en Dieu, les œuvres bonnes, préparées d'avance par Dieu, là, il y aura des récompenses. Hein, quand vous priez pour que et vous annoncez l'évangile aux âmes pour qu'elles viennent à Christ. C'est des œuvres bonnes préparées d'avance. La manifestation de l'amour autour de nous, la manifestation de la grâce de Dieu, hein, ce que Léa nous a raconté et que beaucoup ont déjà expérimenté dans d'autres domaines. Eh bien, voilà, ce sont des œuvres bonnes et on s'en empare par la foi, bien sûr. Et Dieu est avec nous pour nous aider à réaliser notre destinée sur la terre. Et Abraham, Dieu lui demande d'offrir son fils, et il l'a fait. Ce n'était pas son désir de le faire, hein, je vous rassure. Mais étant la volonté même de Dieu, il l'a accompli, croyant même que Dieu est capable de ressusciter son fils. Alors, c'est vrai, soyons dans le cheminement de notre foi. Il y a des œuvres, mais les œuvres, elles découlent de notre foi. Est-ce que vous avez compris cela? Je crois que c'est essentiel. Nous sommes confrontés, et ça, il n'y a rien à faire, à l'aspect méritoire du salut tout autour de nous. Il y a plein de gens qui croient cela. Donc, nous sommes confrontés inlassablement par des gens qui croient, qui sont sauvés par leurs œuvres. ou en tout cas c'est, ils croient que c'est un peu les deux, quoi, un peu leur foi et un peu leurs œuvres, ou beaucoup leurs œuvres et un peu la foi. Non, nous sommes sauvés uniquement par la foi. Et Dieu nous rend juste devant lui, pas par nos œuvres, mais au final, on va être justifié aussi par les œuvres, parce que les œuvres doivent absolument produire du fruit pour être une foi réelle, pour être une foi vivante. Et quelque part, il y a une association des deux, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Notre vie, nous devons la vivre. Et on ne peut pas faire autrement que d'accomplir l'œuvre de Dieu. Si nous sommes des arbres, comme Dieu le veut, Dieu nous compare à des sarments. Hein, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport au cep? Et que la volonté de Dieu, c'est que les sarments portent beaucoup de fruits. C'est comme ça que Dieu va être glorifié. Et les sarments qui ne portent pas beaucoup de fruits, eh bien, le Père émonde, passe, il coupe, afin que les branches portent encore davantage de fruits. C'est bien la preuve que c'est vraiment la volonté de Dieu que nous puissions porter du fruit pour la gloire du Seigneur. Mais ça n'a rien à voir avec notre salut. En tout cas, on ne le fait pas pour notre salut, même si c'est fortement associé. Parce que ça devient très difficile de dissocier la personne de ses œuvres, finalement. Nous allons venir à Dieu avec nos œuvres aussi. Mais le salut, c'est Dieu qui le fait, c'est pas nous. Et ça, c'est une grande vérité. Paul disait, car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Hein? Et là, les œuvres de la loi, c'est les œuvres dans le légalisme, hein? Dans la loi de Moïse. On ne peut pas être sauvé par les œuvres, parce que par la loi, parce que la loi demande la perfection. Là, c'était impossible. Impossible que ça se produise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus est venu, pour accomplir la loi. Chapitre 5 de Romains, verset 11, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La paix nous est donnée parce que nous sommes justifiés par la foi. Galates 3, 24, « Ainsi la loi a été un précepteur, un enseignant, hein, pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. » Et Jacques 2, 24, « Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. » Alors, ce ne sont pas l'accomplissement de la loi ici, ce ne sont pas les œuvres dues à l'accomplissement de la loi de Moïse, ce sont les œuvres préparées d'avance. Et comme je vous dis, il y a une association. Mais ce qui vient en premier, et ça c'est clair, Jacques et Paul sont tout à fait d'accord avec cela, ça c'est clair, le départ, c'est la grâce, ensuite la foi et ensuite les œuvres qui vont en découler. Je pense qu'on va relire Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qui quand même sont essentiels, vraiment essentiels par rapport à la compréhension. 8 à 10. Hein. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le verset 10, si tu veux bien. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, d'abord la grâce, ensuite la foi et ensuite les œuvres. Ne tombons pas dans cette conception qu'on est sauvé par les œuvres. ou qu'on est sauvé à moitié ceci, moitié cela. Non, c'est uniquement la grâce de Dieu. Dieu nous a choisis, Dieu a fait un choix de nous choisir. Jésus a tout accompli à la croix. Et donc, nous mettons notre foi en lui, et au travers de notre foi, il va y avoir des œuvres qui vont en découler. Et ça, c'est les œuvres préparées d'avance afin qu'on les accomplisse. C'est comme ça que Dieu veut que ça se passe dans nos vies et qu'on puisse vraiment le glorifier. Alors, je vais lire quelques versets qui valent la peine ici. Les œuvres spirituelles sont la preuve, non l'élément moteur d'une foi sincère. Donc, les œuvres spirituelles, c'est la preuve, et non l'élément moteur d'une foi sincère. Ça va prouver notre foi. Les œuvres prouvent. Les œuvres servent de baromètre à la justification, tandis que la foi est la base de la justification. Donc la base de la justification, être rendu juste devant Dieu, c'est par la foi. Et le baromètre, c'est ce qui permet de voir un petit peu si réellement c'est acquis, si nous sommes vraiment dans la foi. La foi et les œuvres sont aussi essentielles l'une à l'autre que le corps et l'esprit. Donc elles sont importantes. On ne peut pas dire « Oh, j'ai pas besoin des œuvres alors ». Ah, j'ai compris, bon, c'est la foi, c'est la grâce qui compte, et la foi, et le restant, je m'en fiche, hein, pas besoin d'œuvre, surtout pas. Ah non, c'est important aussi les œuvres, c'est très important. Le croyant doit se mettre au service du corps de Christ par une foi qui accomplit des œuvres. C'est important ça. Pour atteindre la maturité spirituelle, un croyant doit être ce que Dieu veut qu'il soit et faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Je rappelle ça. Pour atteindre la maturité spirituelle, un croyant doit être ce que Dieu veut qu'il soit, être une nouvelle créature. Hein, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis en Christ. C'est sa première chose. Être ce que Dieu veut que je sois. Et bien sûr, l'être est plus important que le faire, hein, toujours. Se rappeler que être est plus important que de faire. Déjà, Dieu lui-même, ce qui est le plus important, c'est pas ce qu'il fait, c'est qui il est. Je suis Dieu. Yahvé veut dire celui qui était, celui qui est, et celui qui est dans un présent qui continue. Donc, il est vraiment. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons. Ça, c'est la première chose. Et puis, les actions suivront. Donc, un croyant doit être ce que Dieu veut qu'il soit et faire ce que Dieu veut qu'il fasse. La vraie foi associe la foi dans les Écritures, la confiance en Christ et l'action morale en tant qu'œuvre d'amour. Donc, la vraie foi, elle prend trois choses. La foi dans les Écritures, la confiance en Christ et l'action morale en tant qu'œuvre d'amour. Le point de vue de Paul est que Dieu accepte un homme aussitôt qu'il a cru. Aussitôt qu'il a cru, on devient un enfant de Dieu et on est accepté par le Père. Qui qu'on soit et quoi qu'on ait fait. Jacques considère un homme qui a cru mais qui a ensuite négligé toutes les occasions d'agir en croyant. Donc, attention, en tant que croyant, on n'a pas le droit de ne rien faire. Et ça, c'est très important, parce que si nous négligeons de porter les fruits, de glorifier Dieu au travers de notre vie, ben, ne nous illusionnons pas, parce que notre foi, alors, elle est morte. Si notre foi n'est pas porteuse d'œuvres autour de nous, eh bien, elle est vide. Et la foi, pour être une foi vraiment honorée par Dieu, elle doit produire du fruit. On ne doit pas négliger les occasions d'agir et de faire du bien autour de nous. Et Paul, lui, pensait au commencement de la vie chrétienne, au départ de la vie chrétienne. Comment le salut s'obtient? C'est une position totalement, radicalement différente de la scolastique et de la position catholique. Où là, c'était les œuvres qui étaient mises en avant. Jacques pense plutôt à la continuation. Au commencement, la foi seule est nécessaire, mais si la foi est réelle, les œuvres suivent. Si la foi est réelle, les œuvres vont suivre. Quant aux œuvres de foi dont Jacques parle dans ces versets, elles proviennent d'une foi vivante. Comme les fleurs et les fruits prouvent la validité, la vitalité d'un arbre, les œuvres des faits réels montrent la réalité de la foi. Elles sont les fruits de la vie divine dans le croyant. Voilà quelques phrases pour illustrer un peu la différence entre la justification par la foi et les œuvres. Donc je crois que c'est fort important pour nous de réaliser cela et de réaliser que nous n'avons pas à accomplir notre salut. Sinon, on va se retrouver dans le légalisme, on va se retrouver dans une attitude de faire des trucs, il faut que je fasse ci ou j'ai pas fait assez ça, moi j'ai pas assez lu la Bible aujourd'hui, j'ai pas assez prié, on est inquiet. On doit se reposer sur le tout accompli de la croix. Jésus a tout accompli, je n'ai pas besoin de m'inquiéter comme ça. Maintenant, je remets ma foi en action, ça c'est vrai. Je ne dois pas me reposer et dire, puisque c'est ça, puisque Dieu me sauve par grâce, il me pardonne tous mes péchés, c'est bon. Je me repose là-dessus. Ben non, justement, là je vais prouver que ma foi elle est nulle. Non, je veux que ma foi grandisse et c'est le Seigneur qui agit en moi par son esprit. Si je laisse l'Esprit Saint travailler dans ma vie, ben je vais produire du fruit, je vais glorifier Dieu. Nous allons prier par rapport à cela. Seigneur Père, nous voulons vraiment te remercier, Seigneur. Il n'y a pas de contradiction dans ta parole, Seigneur. Paul et Jacques parlent d'aspects différents, mais ils se complètent et se rejoignent. Au départ, il n'y a pas d'équivoque. C'est la grâce qui nous sauve, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nos mérites, ça ne vient pas de nous, de nos actions, afin que personne ne se glorifie. C'est toi qui dois être glorifié. Seigneur Jésus, c'est toi qui as tout accompli à la croix. Et nous te remercions. Merci Seigneur, parce que ton Esprit Saint est venu en nous, et nous avons reçu la nouvelle nature créée en Dieu. Et merci Seigneur de ce que tu veux que cette nouvelle nature produise du fruit pour la gloire de ton nom. Et nous voulons marcher comme toi tu as marché. Merci Seigneur. Nous voulons partager la grâce, l'offrir aux autres, être une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous entourent. Merci Jésus de nous aider à manifester la gloire de ton nom pour les jours qui nous restent à vivre sur cette terre, pour les années qui nous restent à vivre, les décennies. Nous voulons vraiment glorifier ton saint nom, Seigneur. Merci Jésus. Nous savons que tu nous récompenseras pour les œuvres. Mais concernant le salut, Seigneur, c'est par la grâce. Tu as fait choix. Le choix vraiment de nous choisir, de nous bénir, de nous combler de grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés et ce salut, il est en Jésus-Christ. Et nous te remercions Seigneur. Merci pour le tout accompli de la croix. Merci éternel. Si deux ou trois veulent le prier par rapport à cela, qu'ils puissent le faire maintenant.